5-6, tu veux que je parle plus fort hein?
Vas-y.
Non, mais tu m'entends?
Là, c'est bon. Ouais. Faudra parler comme ça, quoi. Je parle fort, là?
Moi, je parle pas fort, ouais. Moi, j'ai une voix sourde.
Et... Ouais, ça, c'est là. Vas-y, Laura.
Toi, tu es plus... plus le...
Ouais.
Voilà. Jean-Claude, tu veux me dire que...
Abonné à Trafic à la date du 21-02-92.
Aïe. On veut des noms.
Clotilde Pivet.
On va donner les noms, ok.
C'est un libertaire,
bien.
On va graffer des...
On va graffer des noms. Bon, voilà. Moi, je suis... c'est bon. C'est bon.
On a vu donc, le premier numéro de Trafic. C'est une revue très diverse dans les textes. Et avec un retour en force d'écriture, me semble-t-il, au sens textes écrits. Tu pourrais... Alors, Serge, nous en parler plus.
Serge Lannet.
Bah, c'est une revue. Donc une revue, c'est écrit. Il faut revenir aux définitions simples. Donc c'est normal que ce soyez des gens comme nous. Ceux qui ont fait Trafic, qui viennent plutôt d'une tradition de l'amour du cinéma ou de la cinéphilie, qui est plutôt une tradition qui s'intéresse à l'écrit et à l'image, au rapport entre l'écrit et l'image. Donc je trouve logique que dans une période où on n'écrit plus beaucoup sur le cinéma, où par exemple il manque des bonnes revues populaires, par exemple, de cinéma. Il n'y a pas le cinémonde de notre époque, c'est bien dommage. Donc ce qui résiste le mieux dans ce continent un peu dévasté ou raréfié qu'est le cinéma, c'est la partie qui n'a jamais oublié qu'entre l'image et l'écrit, ben, y a un nœud, il y a une scène de ménage, il y a des rapports profonds. Donc c'est nous qui avons l'idée de Trafic. Et quand on l'a, évidemment, on dit aux gens, écrivez, parce que c'est un signe. Le cinéma vous fait écrire, encore. Quel que soit l'état du cinéma, l'état des gens, l'état de la... Le cinéma fait écrire. Donc moi je suis parti de l'idée, le cinéma fait écrire encore un certain nombre de gens, nous, mais d'autres qu'on ne connaît pas, et d'autres qui sont des voisins, des compagnons de route, ou d'autres qu'on va réveiller, qui sont endormis, ou d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Et donc c'est comme une bouteille à la mer, c'est un petit objet, mais il est écrit, donc quand les gens le réceptionnent à l'autre bout du monde, qui peut très bien être d'ailleurs en face de la rue, et ils lisent ce qui est écrit dessus. Voilà. Donc c'est la suite logique d'une longue histoire qui est plutôt celle des gens qui n'ont jamais considéré que l'écrit et l'image étaient incompatibles. Il y a d'autres traditions dans le cinéma pour qui ce qui compte c'est le visuel, c'est uniquement l'image. Ces gens-là n'écrivent pas.
Je peux ajouter une chose
Jean-Claude Blet.
Que je découvre comme ça. C'est que, en fait, écrire, c'est la même chose, mais dans une autre langue, que parler. C'est-à-dire qu'on écrit, mais c'est une manière de se parler à distance. Et en fait, en écrivant, on se parle entre nous, et c'est une manière de relancer la parole qui, en fait, s'était un peu éteinte. Parce que les gens qui n'écrivent pas, donc qui ne considèrent pas le travail de la critique comme une vraie écriture, sont aussi des gens qui ne parlent pas. Et en fait, la plupart des choses qui sont écrites sont en fait du langage parlé, mais du langage parlé de gens qui ne parlent pas. Donc, le cinéma, c'est aussi... c'est le cinéma, disons, image avec écriture, et aussi image avec parole. Et en fait, c'est ce triangle-là qu'on a essayé de réveiller dans Trafic. Bon, cette idée de la parole me vient maintenant, mais je pense qu'elle est très réelle et qu'elle est contemporaine de ce double aspect avec l'écriture, dont on n'avait peut-être pas conscience quand on a commencé. Mais enfin, c'est ce triple réveil qui a lieu maintenant avec notre revue. Ouais, qu'on a découvert comme ça, parce qu'on sentait que c'est quand même l'urgence qui a fait naître cette revue, et les choses, elles se découvrent en travaillant.
Moi, j'étais très content de trouver la métaphore de la tradition orale. Quand j'ai compris que moi, ce que je faisais, que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui, ces dernières années, avait presque plus d'interlocuteurs pour parler de cinéma. Alors, j'écris aussi, mais j'écris, je parle, enfin, c'est un peu la même opération à des différents moments. Je me suis rendu compte que j'étais comme un griot qui connaissait par cœur beaucoup d'histoires, qui avait besoin d'en parler, qui avait besoin des fois de l'écrire, et que on vivait dans un monde où c'était en train de se raréfier ou de disparaître. Voilà, donc tradition orale, ben, ça dit bien ce qu'il en est, et surtout, à mon avis, ça a l'avantage de relativiser les gens qui croient, enfin bon, c'est Jean-Jacques Hanau qui croit ça, que le cinéma c'est de l'image. Et que c'est raconté en images, et s'exprimer en images. Et... Donc ce sont des gens qui sont après incapables de dire deux phrases humaines. Quand ils passent dans les médias, même quand les médias se sont mis à leurs genoux et leur donnent des heures et des heures, c'est des gens qui ne disent rien.
Parler d'urgence et de réveil, ça veut dire réveil, c'est-à-dire que les gens se sont endormis, et l'urgence, pourquoi ?
Moi, je pense que toutes les années 80 ont été les années de somnolence et de... C'est des années où il y a eu une assez grande bassesse. Au début un peu euphorique et à la fin très pénible. Les événements de la fin de la décennie, les événements politiques, ont au moins l'avantage d'avoir un peu réveillé les gens. Et puis il y a aussi une sorte d'âge d'or ou d'euphorie et de boom très lié autour de la publicité. Économiquement aussi, hein. Le boom de la pub, c'est quand même réel, hein, dans les années 80, c'est-à-dire la prise de pouvoir esthétique et économique, ça marque un peu le pas. Donc là, on est dans une période où, en 10 ans, le cinéma a perdu 30% de sa fréquentation et Le Pen a à peu près 30% des opinions favorables. On est dans ce pays-là, et ben, je trouve normal que, du point de vue du cinéma aussi, on se réveille un peu. Ça va tellement que moi je me suis endormi, j'ai le sentiment d'avoir accompagné la décennie et avoir été inquiet avant beaucoup, beaucoup d'autres gens. Mais on me disait non, t'es de mauvaise humeur, t'es triste, le cinéma ne mourra jamais. Enfin bon, il y avait une sorte de faut être optimiste, qui est le discours même des médias. Et puis non, aujourd'hui on sent que ce qu'on dit quand même est un petit peu plus entendu. Alors on n'est pas du tout des Cassandres ou des choses comme ça. On se dit que c'est peut-être un bon moment pour le cinéma qui a beaucoup perdu de sa graisse, qui a beaucoup perdu de son pouvoir ancien, de son monopole sur l'imaginaire, qui aujourd'hui est quand même plutôt la télévision, mais qui garde sa boîte noire ou son noyau dur, ou ce qui fait qu'on est un peu plus humain tout simplement quand on est dans le cinéma, et un peu moins dans la barbarie. Voilà, donc... Le bon accueil qu'il y a eu depuis un mois que la revue a été lancée, qui est vraiment un bon accueil, on sent qu'il y a un sentiment positif de qu'on avait besoin de ça, nous ça nous confirme dans l'idée que peut-être qu'on va pouvoir recommencer à parler un peu avec le cinéma, tel qu'il est, hein, tel qu'il est aussi bien ce qui se fait aujourd'hui que ce qui continue à être vivant pour nous, c'est-à-dire en essayant de faire le moins possible passé et présent. Il y a des choses vivantes dans le cinéma, dans le présent et dans le passé. On essaie de prendre appui sur ça, et seulement sur ça. Il y a des choses mortes dans le cinéma actuel, et il y a des choses mortes dans le vieux cinéma. Voilà, on se dit que c'est un peu comme ordinateur, il y a un mot, c'est réactiver. On réactive beaucoup de choses, et on se rend compte que nous, on est encore assez vaillants, et capables de mauvaise humeur, et capables de tomber amoureux de films comme ça, qu'on rencontre. Et que si on ne le fait pas, nous, personne ne le fera, parce que pour qu'il y ait passage de témoin, encore faut-il faire le geste de passer le témoin. Et on ne l'avait pas vraiment fait jusqu'à présent. On était un peu repliés sur un magot, sur un trésor, qui était que nous, on avait vécu encore quelque chose d'un peu irraisonnable et un peu passionnel. Il s'appelle cinéphilie, mais aujourd'hui, on est obligé de la transformer, cette cinéphilie, en quelque chose qui veut aller quelque part. Ça ira ou ça pourra.
J'en veux bien, attends. sur cette urgence.
Oui, cette urgence, c'est aussi une manière de rendre au cinéma son indépendance par rapport aux médias qui prétendent à être le tout de la connaissance. Voilà. Et le cinéma, dans ce qu'il a de plus autonome, est une manière de dire les choses ne sont pas si simples, ne sont pas si résolues qu'elles se proclament. Donc il y a un travail à faire qui est d'appauvrissement de tous les signaux dont la télévision bombarde les malheureux téléspectateurs qui n'ont pas de place pour réfléchir et pas de place pour imaginer. Donc le cinéma, plus que jamais, existe par cette volonté d'indépendance et cette capacité qu'il a toujours eue et qu'on est en train de lui faire perdre de représenter une connaissance humaine et non pas une connaissance totalitaire ou encyclopédique. Et le cinéma, enfin, pour reprendre la vieille idée de Renoir, c'est le relatif. Il faut sauver et montrer la vitalité du relatif.
J'ai l'impression que c'est un numéro qui est quand même beaucoup autour de la notion de perte. Il y a d'abord l'éditorial d'Ezra Pound, on pourrait considérer que c'est un éditorial, le petit texte d'Ezra Pound tout à fait au début, qui parle beaucoup du déchet. Et il y a beaucoup de choses sur la perte, notamment il y a beaucoup de choses sur la perte donc, qui revient dans le numéro.
Oui, mais la perte et le déchet, c'est deux choses distinctes.
Oui.
Parce que la perte du geste dont parle Agamben, c'est un appauvrissement, je dirais simplement humain. Le déchet, c'est les choses qui paraissaient vivantes peut-être à une époque et qui, avec le temps, accusent leur vide. Le déchet, c'est... on peut dire pour le cinéma, ce sont les films qui ne nous parlent plus aujourd'hui et qui ne nous regardent plus, comme si leur existence en projection concernait des gens déjà morts depuis longtemps et comme si c'était des fantômes qui s'agitaient sur un écran et qui n'ont plus aucun rapport avec nous, sinon avec les codes de l'époque où ils ont été faits. Ce ne sont que des agitations de codes. Voilà. Et donc le déchet, c'est le déchet, c'est ce qui ne vaut plus la peine d'être regardé, sinon pour peut-être certains sémiologues, et encore, je ne sais pas, mais pour le flux vital continuel du cinéma, ça ne rime plus à rien. Et la perte des gestes, c'est quelque chose à quoi on peut un peu remédier en y réfléchissant et en essayant de trouver qu'est-ce qui peut compenser cette perte, ou comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, à travers des films, interroger cette perte, essayer de trouver quelque chose qui... peut-être remplace ces gestes perdus.
Oui, mais en plus la perte, faut pas voir ça d'une façon trop tragique ou nostalgique, parce que la perte est inhérente au sentiment de l'histoire et de l'humanité. Nietzsche disait ce que nous avons perdu est indicible. Et indicible, ça veut dire qu'on a toujours du mal à en parler. Il y a toujours une perte dans toutes les opérations humaines. C'est presque naturel, je dirais. On pense toujours qu'on a perdu quelque chose par rapport à la génération d'avant, par rapport au siècle d'avant, par rapport au millénaire d'avant, ou par rapport à l'âge d'or d'avant, ou par rapport au paradis. Paradis perdu. Donc le cinéma a certainement un rapport un peu à lui, particulier, privilégié, dans une sorte de mélancolie liée à cette perte. Mais à mon avis, pas de nostalgie, de mélancolie, ce qui est une sorte de perte simultanée, la perte dans le présent, le sentiment dans le présent de perdre quelque chose déjà, qui sont un sentiment que les films de Jacques Demy donnaient très fort, ou des fois certains films de Wenders, mais en plus littéraire. Oui, c'est un sentiment qui fait partie de l'émotion du cinéma, je pense qu'on l'a tous, on l'a tous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire et qu'en faire? Faut pas trop s'en faire. Moi, je pense, par exemple, je l'avais écrit, mais ailleurs, je pense que la cinéphilie continuera aussi par les cassettes et par la télé et par la vidéo, et que moi, ça ne me pose aucun problème. Mais je dis, le cinéma sera transmis ou communiqué avec sa perte, c'est-à-dire avec la trace de quelque chose qui manque. Exactement comme quand on voit une cathédrale, à Beauvais, par exemple, on ne se dit pas que la cathédrale était en couleur lorsqu'elle l'était. Ça ne nous manque pas. Manque pas. On peut le savoir, et si on est un peu cuistre, on peut en faire. Ou les temples grecs qui étaient polychromes. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait quelque chose de perdu dans le cinéma, dont le cinéma peut-être a essayé de rétablir le fantôme. C'est le texte d'Agamben dont c'est l'hypothèse. Mais Agamben dit que c'est perdu au 19e. Ça veut dire que c'est plutôt la question de la photo. Et moi, je ne suis pas assez érudit pour ça, mais je pense que quand on lit Baudelaire, on a accès à cette question-là, comme si c'était aujourd'hui. Le cinéma est venu avec l'envie de replâtrer. Alors, il a replâtré en grand, puis en moins grand. Maintenant, il replâtre peut-être plutôt comme un acupuncteur. Voilà ce qui a changé. Mais le rapport à la perte n'a pas... Il est plutôt fondamental. Quant à la citation d'Ezra Pound, c'est un peu injuste ce que vous dites, parce que ce qui est beau dans cette citation, c'est de dire aux gens « ce que vous aimez vous protégera ». Et je veux dire qu'on aurait, donc c'est Jean Cotte qui a trouvé cette citation, un peu inattendue comme ça sous la plume de Pound, c'est qu'il y a un moment, il ne faut pas avoir peur de se dire, quand on est un peu, des fois, un peu seul ou un peu... un sentiment de plus beaucoup mordre sur la réalité, ou que l'ennemi est beaucoup plus fort, des choses comme ça, un sentiment qu'on a souvent en ce moment. Il ne faut pas avoir peur de se dire que le fait d'avoir beaucoup aimé quelque chose, bah ça crée, comme tout amour, ça crée de la réciprocité, c'est-à-dire que nous sommes protégés par les choses que nous avons aimées, dans le cinéma par exemple, et que des fois on a le sentiment que ça sera peut-être moins vrai pour des gens plus jeunes que nous, et que c'est embêtant. Mais que la seule chose qu'on peut leur dire, c'est ça.
Inversement, ce que vous aimez.
Oui. Inversement, justement, ça a été peut-être ce qui, dans les années 70, a dérapé dans notre histoire. Tout à l'heure, on parlait de sémiologie, tout ça. Il y a trop peu d'amour là-dedans pour qu'au moment où ça a passé de mode, ça puisse rétrocéder un peu de protection.
Qui me frappe dans Trafic, vous parliez tout à l'heure aussi bien Jean-Claude que d'Annette de ce que ça venait de l'autre bout du monde, de la distance. C'est que cette idée de l'autre bout du monde et de la distance, on la retrouve très présente dans les textes. Enfin, on a l'Inde, on a le Vietnam, on a quelque part aussi la Palestine, enfin c'est Amman. C'est quand même une chose qui se retrouve comme ça.
Ça, c'est parce que nous, on appartient à une génération, on n'a pas choisi, c'est comme ça, qui a eu 20 ans, 60-65, et qui a donc assisté, éberlué, au déferlement du monde dans les salles obscures, à partir de 65, disons, jusqu'à 75. Bon, plus, moi, personnellement, j'ai plutôt un tempérament de voyageur, de bourlingueur. Pour moi, l'image fondamentale de ma vie, c'est pas le cinéma, c'est la carte de géographie, c'est celle-là, c'est la carte du monde qui est derrière moi. Donc, sentiment d'euphorie, très très optimiste au début, et puis après plus pessimiste, que le cinéma allait échapper au pays qui l'avait inventé et allait devenir l'affaire mondiale. On a pu croire à ça, et on a eu raison d'y croire pendant une dizaine d'années. Voilà, ça c'est beaucoup, le cinéma c'est plutôt rapatrié, se rapatrie d'ailleurs à une très grande vitesse sur les pays qui l'ont inventé, principalement France-Amérique. bras de fer franco-américain va redevenir, à mon avis, à la fin du cinéma, ce qu'il a été au début du cinéma, Lumière Edison. Il faut dire aux petits Français que personne en Amérique pense que c'est Lumière qui a inventé le cinéma, hein, c'est Edison. Le débat est d'ailleurs très ouvert, il est très intéressant. Et je trouve dans l'arrogance et la prétention un peu ridicule de certains cinéastes français d'aller chasser sur les terres des Américains, donc du côté de la mythologie ou de la cosmologie, donc des gens, pas des gens, des choses comme Anno, il y a quelque chose de Méliès essayant de conquérir l'Amérique commercialement et ratant son coup, parce que les Américains sont plus forts. Mais c'est pour dire que ça s'est beaucoup rétréci, et que nous, comme on appartient à cette génération qui a connu, qui a vécu, qui a assisté, qui a accompagné, qui a aidé, une sorte au contraire de dilatation du monde du cinéma, et que ce monde du cinéma avait comme noyau dur effectivement la cinéphilie, c'est-à-dire Claude Rocha ou Pasolini ou Oshima ou Tanner avaient la même admiration pour Fritz Lang, pas besoin de se le dire, venant de mondes différents, et etc. Par chance, c'est passé un peu dans les cahiers de l'époque. Moi, je suis évidemment inconsolable de ça. Je ne pense pas du tout que ce soit la situation actuelle. Je pense que c'est notre devoir de dire que ça a existé, que ça a profondément marqué des cinéastes. Bon, là, c'est Kramer, mais c'est vrai que Rossellini était allé en Inde pour tout d'un coup lui-même se changer, etc. Et que, comme moi, je suis voyageur, moi, ça me touche beaucoup, cette idée. Le cinéma, peut-être, ne survivra pas au fait complètement mondial. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, par exemple, on n'est pas les seuls, mais je veux dire que pour nous, c'est important. Et il y aura dans le numéro 2, Jean-Claude a continué à écrire sur lui, et puis il y aura un papier de lui, c'est Kiarostami, par exemple. Mmh. Voilà un Iranien qui, depuis 20 ans, fait du grand cinéma. Et quand je dis du grand cinéma, ça veut dire que dès qu'on a vu 5 plans de lui, on sait qu'on est chez nous, et on commence à regarder ses plans, et on apprend des choses sur l'Iran. Pas le contraire. Pas l'approche, disons, sociologique, à base de contexte. Donc il y a encore des émerveillements comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant.